7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 8 septembre. Bonjour Anaïs Feugard.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le désir de témoigner plus fort que la douleur. Ouverture ce midi d'un procès historique, le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts, plus de 1000 parties civiles. Nous sommes au palais de justice dès le début de ce journal et on en parlera avec les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Ils sont souvent les grands oubliés des attentats terroristes, mais que ressentent les proches des victimes? Comment font-ils eux aussi pour se reconstruire? Ce sont les questions que pose Camille Emmanuel, la femme du dessinateur Luz, dans un livre très fort publié cette semaine. Elle sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Les autres titres, Anaïs?
Pas vraiment de gouvernement inclusif en Afghanistan, mais le noyau dur des talibans et des terroristes de longue date. Des appartements de plus en plus petits et mal agencés. Rapport remis aujourd'hui par l'architecte François Leclerc au ministère du Logement. Et puis Antoine Griezmann, le doublé de la victoire hier à Lyon. La France se rassure sur le chemin du Qatar.
France Inter.
Des années de souffrance pour les victimes et leurs proches, un traumatisme national, un pardon souvent impossible et un immense désir de justice. Les attentes sont énormes alors que s'ouvre aujourd'hui le procès des attentats du 13 novembre 2015. 20 hommes jugés pour ces attaques qui ont fait 130 morts, 1800 parties civiles. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous êtes déjà au Palais de justice de Paris, vous allez suivre ce procès qui débute tout à l'heure à midi et demi.
Oui, je me trouve devant l'entrée dédiée à cette audience et par ici que les nombreux professionnels, 330 avocats, 141 médias accrédités entreront d'ici quelques heures. C'est à cette entrée également, à l'arrière de l'île de la Cité, déjà complètement bouclée par les forces de l'ordre, que se présenteront les parties civiles. Elles sont 1800 constituées à ce stade. Toutes ne feront évidemment pas le déplacement aujourd'hui, mais pour certaines, comme ce jeune photographe, otage pendant plus de 2 heures des terroristes du Bataclan, il est important d'être là aujourd'hui à l'ouverture du procès. David Fritz Köppinger.
Finalement, j'attends ce moment depuis le mois de novembre, au moment où j'ai déposé ma plainte. Donc ça fait quand même pas mal d'années. D'ailleurs, j'ai en mémoire les mots de l'OPJ qui a recueilli ma plainte, qui m'a dit, oh, vous savez, un jour, il y aura un procès. Bah, là, on y est, quoi. Alors jusqu'ici, je ne savais pas ce que j'allais raconter à la barre. Il y a une vraie idée de dire et d'expliquer voilà ce que fait un attentat dans la vie d'une personne. Je pense que c'est important de dire aux gens et au peuple quelque part et aux citoyens que voilà l'attentat ça fait ça et derrière saisir cette opportunité de pouvoir parler face à la cour pour que les gens comprennent.
Son témoignage est prévu courant octobre devant la cour. L'audience aujourd'hui est consacrée à l'appel des parties civiles.
Et au premier rang des accusés, Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos, il n'a pas fait exploser sa ceinture. Il est rentré en Belgique après la nuit du 13. Charlotte, qui sont les autres accusés?
Ils sont 20 au total, mais 6 d'entre eux ne seront pas présents à l'audience. 5 commanditaires présumés sont vraisemblablement morts en Syrie. Un 6e homme est détenu en Turquie. Dans le box des accusés, on retrouvera donc Salah Abdeslam, vous l'avez dit, mais aussi Mohamed Abrini, l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles en mars 2016, ou Osama Krayem, qui s'est lui aussi ravisé au dernier moment lors des attaques en Belgique. Voilà parmi les plus impliqués. D'autres seront jugés pour avoir récupéré et ramené Salah Abdeslam à Bruxelles après les attentats. D'autres encore pour leur aide dans les préparatifs, la location des planques ou la fourniture des faux papiers. À noter que 3 des accusés comparaissent libres à cette audience.
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice avec Frédéric Kérou. Des témoignages comme celui qu'on vient d'entendre, ce photographe que vous avez recueilli. France Inter en diffuse toute la journée. Ils sont à écouter sur le Twitter de France Inter qui suivra en intégralité ces 9 mois de procès exceptionnels. Pas une seule femme et les principaux Marocains confiés aux très proches du premier cercle. Le nouveau gouvernement taliban annoncé hier bien loin de la promesse d'un gouvernement inclusif. Le cofondateur des talibans, le Mollah Baradar, est numéro 2. Le fils du Mollah Omar, fondateur du mouvement, est ministre de la Défense. Bref, des nouveaux leaders, figures de longue date du terrorisme, explique Eric Bigal, le politologue Gilles Dorosoro, spécialiste de l'Afghanistan.
La première impression, c'est que les gens qui sont au gouvernement sont les gens qui ont gagné la guerre. Donc c'est le noyau dur des talibans. Il n'y a pas de personnalité extérieure pour le moment. Parce que ça, c'est ma deuxième remarque, c'est que les talibans ont conscience que, en fait, là, il ils présentent le visage du mouvement qui a gagné la guerre et c'est un peu contradictoire avec leur discours d'ouverture. Ma troisième remarque, c'est la présence du fils Hakani, donc Serge Houdin Hakani, à un poste clé qui est le poste de l'intérieur. C'est potentiellement la répression des manifestations, la surveillance. Et là, on se rend compte qu'on va frontalement contre une inclusion du gouvernement afghan dans le système international. Parce que toute la famille Hakani, notamment Serge Houdin, sont considérés comme des terroristes. Là où on va vers un clash qui peut être déterminant pour la suite, c'est la présence dans le gouvernement de personnalités qui sont considérées non seulement comme terroristes, mais avec qui les Américains ont un problème spécifique, et notamment la famille Hakani.
Et tout cela inquiète en effet la communauté internationale. Le secrétaire d'État américain en parlera avec ses partenaires aujourd'hui en Allemagne sur la base de Ramstein. Le Mexique, touché cette nuit par un séisme de 7,1 sur l'échelle de Richter, épicentre à 11 km d'Acapulco, un mort pour l'instant et quelques dégâts signalés. En bref, encore en Indonésie, l'incendie d'une prison dans la région de Jakarta a provoqué la mort de 41 personnes. Le feu s'est déclaré dans la prison surpeuplée de Tangerang.
Il est 7h06. Le pass sanitaire, Anaïs, n'est plus obligatoire dans la grande majorité des centres commerciaux.
En tout cas, partout, le taux d'incidence est passé sous les 204 Covid pour 100 000 habitants sur une semaine. C'est le cas en Gironde, où depuis un mois, 10 centres commerciaux exigent ce pass. Fini donc, à partir d'aujourd'hui, au grand soulagement des consommateurs, comme l'a constaté Thomas Vichard au centre d'Auchan-Bordeaux-Lac.
Avec déjà un petit effet sur le parking où est installée une tente de dépistage antigénique, Kedaout s'y fait régulièrement tester.
Je suis étonnée parce que il n'y a pas de monde. D'habitude, ceux qui n'ont pas de rendez-vous, mais qui viennent comme ça volontairement, il y en a vraiment beaucoup. Et là, je trouve qu'il n'y a plus rien.
Deux tests par semaine pour aller faire ses courses, ça commençait d'ailleurs à agacer Mehdi, qui refuse pour l'instant le vaccin.
Ouais, ça va nous apaiser un peu. Le stress et tout ça, s'organiser pour faire le test, attendre les résultats, ça va être une meilleure vie, quoi.
Ce n'est pas pour elle que Cindy se réjouit, mais pour les commerçants.
Les entreprises en ont assez bavé comme ça aussi, et ils ont besoin de pouvoir travailler.
Mais cet allègement arrive peut-être un peu tôt, selon Christelle, vaccinée depuis plusieurs mois.
Effectivement, les chiffres sont à la baisse, on n'est pas à l'abri que ça reprenne. Moi, je voudrais peut-être continuer un petit peu. Après, je peux comprendre aussi que pour les professionnels, ça soit un frein. Donc c'est toujours pareil, il faut arriver à trouver l'équilibre.
Florian, non vacciné et contre le pass sanitaire, voit plus large que les centres commerciaux.
Pour aller dans un restaurant, faire d'autres activités, forcément, il faut le faire aussi. Donc c'est un peu une privation des libertés.
Et les non-vaccinés vont bientôt devoir s'adapter à une nouvelle mesure, puisque dans un peu plus d'un mois, à la mi-octobre, les tests de dépistage seront payants.
Thomas Vichard, France Bleu Gironde. Seuls 64 centres sont encore soumis au pass en France, dans 9 départements du Sud et en Seine-Saint-Denis. Pass obligatoire qui n'aura in fine que modérément affecté les centres commerciaux, les cinémas ou les lieux de loisirs. Seule la restauration pâtit de 10% de chiffre d'affaires en moins selon l'INSEE. En revanche, on le redoutait, on le confirme, la lutte contre le Covid-19 a eu un impact dévastateur sur la lutte contre d'autres maladies, sida, paludisme, tuberculose, l'accès au système de santé, aux tests de dépistage perturbés dans de nombreux pays, recul sans précédent et conséquences catastrophiques sur la tuberculose selon le rapport annuel du Fonds mondial de lutte contre ces maladies. Conséquences aussi de la pandémie et de ces confinements, notre regard sur nos logements a changé. Appartements trop exigus, mal agencés, et ce n'est pas une vue de l'esprit. La superficie et la conception des logements a diminué ces dernières décennies. C'est ce que quantifie un rapport présenté aujourd'hui au ministère et que vous avez pu consulter, Claire Chaudière.
Le constat est sans appel et doit nous interroger. À notre époque et dans un grand pays riche comme la France, lâche l'architecte François Leclerc, co-auteur du rapport remis aujourd'hui à la ministre du Logement.
On se rend compte que le logement, il a eu un progrès constant pendant le XXe siècle. Et puis ensuite, récemment, on va dire au XXIe siècle, on a pu assister à une forme de régression par rapport à la surface.
Perte de 10% de surface au sol pour les 3 pièces en 40 ans, moins de lumière, de hauteur sous plafond, de capacité à ventiler avec des appartements traversants. La France est même mauvais élève par rapport à ses voisins européens. Et les raisons sont multiples. Pression foncière, pénurie de logements, logique de rentabilité, de moindres attentes aussi des propriétaires lorsqu'ils achètent pour louer. Sans oublier un certain fatalisme.
Dans la constitution d'une ville, le logement, c'est la brique essentielle. C'est un impensé. c'est-à-dire peu de gens s'en sont occupés. Ce confinement, c'était un révélateur, c'était la possibilité de faire évoluer une mentalité.
Alors pour enrayer la tendance, le rapport propose de généraliser les chartes territoriales expérimentées ici ou là.
C'est une sorte de contrat entre un promoteur et une ville. Le maire peut dire « si tu ne construis pas comme je le souhaite, je serai moins gentil la prochaine fois ».
Autre idée, conditionner pour les propriétaires la défiscalisation du dispositif Pinel à des critères de qualité de logement, piste étudiée par le gouvernement.
Prière de venir avec trois nouvelles réformes sous le bras et trois actions déjà réalisées. Les ministres convoqués aujourd'hui par le chef de l'État pour le séminaire gouvernemental de rentrée. Objectif, cadrer les 200 derniers jours du quinquennat en valorisant le bilan présidentiel. Lui met 3 milliards d'euros sur la table. Xavier Niel rachète lui-même aujourd'hui toutes les actions de sa société Iliad disponibles sur le marché. Objectif, Laurent Kramer, quitter la cotation en bourse et conserver le contrôle absolu de son entreprise.
Avec ce rachat, près de 3 milliards d'euros, Xavier Niel deviendra le seul maître à bord du groupe qu'il a créé à la fin des années 90 et propulsé en bourse en janvier 2004. Mais l'époque a bien changé. Après l'euphorie des années 2000, les investisseurs boudent désormais les entreprises de télécom jugées insuffisamment rentables au goût du marché. Le groupe de Xavier Niel a ainsi perdu 30% de sa valeur boursière depuis le début de l'année. Avec de lourds investissements dans la fibre ou la 5G, le rendement des télécoms ne fait désormais plus rêver les marchés. Mais convaincu que son groupe est bel et bien sous-évalué, Xavier Niel souhaite donc s'émanciper de la cotation boursière et profite par la même occasion pour faire une bonne affaire en rachetant lui-même les 30% de son groupe coté en bourse. Xavier Niel s'endette certes pour 3 milliards d'euros, mais pilotera seul un groupe valorisé pour près de 18 milliards d'euros au terme de l'opération.
Pour le TER Marseille-Nice, il faudra bientôt trouver une autre billetterie que celle de la SNCF. Pour la première fois en France, le transporteur historique perd l'exploitation d'une ligne TER, conséquence de l'ouverture à la concurrence. Ce sera acté par les élus régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 29 octobre. Le contrat de concession de 10 ans, 870 millions d'euros, sera confié à Transdev. Enfin, après 5 matchs nuls, la victoire de l'équipe de France de football, 2-0 hier contre la Finlande. Qualification pour le mondial au Qatar. Benzema comme un roi chez Lyon, ovationné par les 57 000 spectateurs. Soulagé Cédric Guillou.
Et il y a bien longtemps que l'on n'avait pas vu des supporters de l'équipe de France avec le sourire à l'issue d'un match des Bleus.
On a retrouvé un petit peu de peps dans cette équipe de France. On est vraiment content pour ça.
Par rapport à l'Ukraine, beaucoup mieux. J'étais pas trop confiant, mais au final, beaucoup de spectacles, très grosse ambiance.
Porté par le duo Benzema-Griezmann étincelant hier soir, les Français ont stoppé leur série de matchs nuls, affichant de la maîtrise, de la détermination. Ils n'ont jamais été inquiétés par les Finlandais et ont livré leur meilleur match de l'année. Et du coup, Didier Deschamps, le sélectionneur, a lui aussi retrouvé le sourire.
Content, heureux, évidemment, pour les joueurs. Pour le résultat qui était essentiel pour nous, autant j'étais pas satisfait de ce que j'avais vu sur les deux premiers matchs, même s'il n'y avait pas tout à jeter, mais ce soir c'est plus conforme à ce qu'on est capable de faire. Collectivement, la prestation est d'un bon niveau.
Didier Deschamps et les Bleus vont maintenant préparer leur prochain défi avec l'esprit un peu plus léger, la demi-finale de la Ligue des Nations face à la Belgique, le 7 octobre prochain à Turin.
Et hier, c'est un doublé de Griezmann qui a libéré la France. 41 buts au compteur avec les Bleus, comme Michel Platini.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom. Aujourd'hui, sur les traces de Ben Laden au Pakistan.